Les gens ont peur, voyez-vous. Ils ont peur de sortir du rang parce qu'ils ont peur d'être attaqués. Donc, Robert, c'est super de vous avoir à nouveau au festival. Vous avez commencé votre carrière en tant que biochimiste au CLA College de Cambridge, mais vous avez abandonné assez rapidement. Et depuis, vous avez eu beaucoup de succès avec toute une série de livres sur la parapsychologie et la télépathie. Et je pense que vous seriez probablement juste de dire et vous conviendrez probablement que la communauté scientifique n'a jamais vraiment accepté votre point de vue sur une grande partie de ce contenu et a souvent été plutôt critique. Mais vous avez eu beaucoup de succès auprès du grand public. Quelle en est la raison selon vous? Pourquoi pensez-vous que la communauté scientifique a été aussi difficile à convaincre? Eh bien, il est difficile d'identifier qui est la communauté scientifique. Par exemple, lorsque j'étais membre du CLA College à Cambridge, après avoir fait mon doctorat, j'ai constaté que lorsque je discutais de mes idées à la table d'honneur et avec d'autres scientifiques, certains étaient vraiment intrigués, d'autres très amicaux, d'autres un peu hostiles. Les réactions étaient variées. Ensuite, je travaillais en Inde, dans un institut de recherche agricole, l'Institut international d'agriculture, et parmi les scientifiques indiens avec qui je travaillais, aucun n'était hostile du tout. Ils étaient fascinés par l'idée de la résonance morphique et par le genre de sujet qui m'intéressait. Je veux dire, aucun d'entre eux n'était un athée militant. Mais lorsque je suis revenu en Angleterre et que j'ai publié mon premier livre, A New Science of Life en 1981, les réactions ont été très mitigées. Certaines personnes l'ont vraiment apprécié. Mais il a été dénoncé dans un célèbre éditorial du rédacteur en chef de Nature, Sir John Maddox, comme un livre à brûler. Il l'a fait en première page et son intention était de m'excommunier du monde scientifique en me dénonçant comme hérétique. Cela signifie que je suis devenu dangereux à connaître pour de nombreux scientifiques, mais cela ne signifie pas que tout le monde pense comme ça. Les personnes qui m'ont attaqué à plusieurs reprises ont une chose en commun, c'est qu'elles sont des athées militants. Je connais beaucoup d'athées, et la plupart d'entre eux ne sont pas militants. Et la plupart, beaucoup d'entre eux sont des amis. Mais, les personnes qui sont des athées militants ont généralement fait de la vision du monde matérialiste mécaniste une sorte de religion dont dépend leur identité. Ma critique de cette vision du monde et ma tentative de faire évoluer les choses au-delà ont été très, très bouleversantes et agaçantes pour ces personnes. Ce qui s'est passé, c'est que ces dénonciations de membres généralement engagés du comité pour une enquête sceptique sont ensuite reprises par les éditeurs de Wikipédia. Il y a toute une équipe de sceptiques guerriers sur Wikipédia qui ont pris le contrôle de ma page biographique il y a au moins 20 ans. Ils ont pris le contrôle de cette page et la contrôlent. Quiconque essaie de la modifier différemment a du mal à s'en sortir et se fait généralement bannir. Il y a des gens qui ressentent ça très fort, mais la plupart des scientifiques ne le font pas. Et quand je donne des conférences dans des instituts scientifiques, la plupart des gens sont parfaitement amicaux et, en fait, après la conférence, cela arrive presque toujours pendant l'apéritif ou le thé, les gens viennent me voir, me regardent dans les deux sens et me disent « Vous savez, je suis vraiment intéressé par votre travail. J'ai moi-même vécu ces expériences télépathiques. Mon chien sait quand je rentre du labo. » Ce genre de choses. Et puis ils disent généralement « Mais je ne peux pas parler à mes collègues parce qu'ils sont trop directs. » Et puis un autre arrive et dit la même chose. Et puis un autre. Et je leur dis parfois, en fait, vous n'êtes pas seul. Il y a au moins trois ou quatre de vos collègues qui pensent comme vous. Ils me disent, eh bien, comment le savez-vous? Et je réponds, parce qu'ils viennent de me le dire. Les gens ont peur. Vous voyez, ils ont peur de sortir du rang parce qu'ils ont peur d'être attaqués. Cela ne signifie pas que cette orthodoxie plutôt limitée est réellement activement et avec enthousiasme acceptée par la plupart des scientifiques. Ce n'est pas le cas. Et donc je suppose que votre explication est qu'il y a tout un tas de gens dans le monde scientifique qui ont une vision philosophique globale qui est antagoniste à votre approche. Ouais. Et qu'ils interviennent sur cette base pour essayer de vous exclure de cette conversation. Que leur diriez-vous s'ils vous disaient « Eh bien, Robert, vous avez une vision philosophique globale qui est implicite dans votre approche et qui affecte la manière dont vous interprétez votre matériel. » Eh bien, j'ai une vision philosophique globale. C'est une sorte de vision holistique de la nature où la conscience est omniprésente dans l'univers et où les esprits s'étendent au-delà du cerveau, etc. Ce sont des visions où il y a une résonance morphique ou une mémoire dans la nature et cela diffère de la vision matérialiste mécaniste standard. Mais je considère que ce sont des visions à discuter et, si possible, à tester scientifiquement pour voir si leurs prédictions diffèrent. Et en effet, je passe une grande partie de mon temps à faire des expériences pour essayer de tester ces prédictions. Je pense donc que là où nous différons, c'est que je pense qu'il devrait y avoir un débat ouvert sur les différentes visions du monde. Alors qu'il pense que tout ce qui ne correspond pas à cette vision du monde matérialiste et mécaniste devrait être qualifié de pseudo-science et annulé si possible. C'est donc asymétrique. Vous voyez, dans presque tous les autres domaines de l'activité humaine, il existe une pluralité de points de vue. Vous savez, en philosophie, il existe différentes écoles de pensée, vous en avez une vous-même. En politique, vous savez, il existe différents partis. En religion, il existe de nombreuses religions différentes et au sein de chaque religion, il existe différentes confessions, vous savez, anglicanes, catholiques, presbytériennes, etc. Mais dans le domaine scientifique, cette culture n'existe pas et je n'ai pas rencontré de culture de débat scientifique équitable sur des sujets controversés. Cela fonctionne davantage sur la base du principe du gagnant rafle tout. L'orthodoxie dominante contrôle les subventions, les meilleures revues, le processus d'évaluation par les pairs, les nominations, les comités consultatifs gouvernementaux, etc. Oui. Eux, et tout le monde est en quelque sorte exclu. Ce n'est pas seulement dans les domaines qui me concernent. C'est le cas dans presque tous les domaines scientifiques. On peut trouver une sorte de minorité dissidente qui a été réduite au silence, évincée, privée de financement, etc. Ce n'est pas une situation saine. Et je pense que c'est en partie parce que personne n'a jamais vraiment réfléchi à la manière dont la culture scientifique pourrait fonctionner. Vous savez, vous avez des consultants dans les entreprises sur la façon de faire en sorte que les gens interagissent mieux et ce genre de choses. Absent dans la science. Eh bien, comme vous le savez, je partage certains de vos commentaires généraux sur la science en termes d'imposition d'un point de vue unique et j'encouragerai l'idée de point de vue alternatif. Bien sûr, vous êtes conscient que je suis d'avis que la science ne découvre pas la vérité. Elle fournit un modèle par lequel nous interprétons le monde. Iriez-vous jusque-là? Avez-vous une vision théorique du modèle de votre propre interprétation ou pensez-vous avoir en quelque sorte vu comment elle est réellement sous-jacente? Non, j'ai un modèle et j'en ai plusieurs, mais l'un d'eux est le modèle de la mémoire par résonance morphique, de la nature et de l'influence du passé au présent. Mon modèle est basé sur la similarité de résonance morphique affectant des choses similaires ultérieures à travers l'espace et le temps. Maintenant, je suis presque sûr qu'il doit y avoir une mémoire dans la nature, car je ne pense pas que la biologie évolutionniste fonctionnerait très bien sans elle. Je ne sais pas si j'ai le bon modèle ou non. Pour l'instant, c'est presque le seul modèle de mémoire sur le marché. Il y a quelques personnes qui ont des affirmations vagues selon lesquelles il pourrait y avoir une mémoire dans l'univers. Les modèles hindous et bouddhistes du karma ont une sorte de mémoire dans l'univers et une causalité à travers le temps. Il y a donc des similitudes. Donc non, je le vois définitivement comme un modèle. Je ne la considère pas comme la théorie ultime, et ma propre vision des champs morphiques et de la résonance morphique me semble un peu comme l'idée de Faraday sur les champs électriques et magnétiques, et il ne savait pas comment ils fonctionnaient. Je ne sais pas comment ils fonctionnent. Maxwell est arrivé 20 ans plus tard avec ses équations de l'électromagnétisme en termes d'éther et tout le monde a dit que c'était génial et a construit la compréhension de la lumière et des ondes radio au 19e siècle. Et puis Einstein est arrivé et a déclaré que l'éther n'existait pas et a présenté sa théorie de la relativité restreinte. Et puis l'électronamique quantique est arrivée et a déclaré que tout était basé sur le champ du vide quantique et des choses auxquelles Faraday n'aurait jamais pensé. Les modèles n'arrêtaient pas de changer, mais le phénomène fondamental, les champs électriques et magnétiques, semblait faire partie de la nature. Je pense donc que les phénomènes fondamentaux dont je parle sont peut-être réels, mais je ne sais pas. C'est pour cela que je fais des expériences. Si je connaissais les réponses, je ne passerais pas beaucoup de temps à concevoir et à réaliser des expériences. Eh bien, et peut-être que ce n'est pas très important qu'il y ait une réalité ultime qui décrive une question et qui ait une application qui serait utile dans certains domaines. Y a-t-il des façons dont vos théories globales ont, selon vous, une application qui ferait une différence pour les gens? Eh bien, la résonance morphique est une théorie de la mémoire. Elle inclut la mémoire normale, votre mémoire et ma mémoire. Et elle a des implications pour les méthodologies d'apprentissage, car si la résonance morphique se produit, alors en puisant dans la résonance de personnes qui ont appris quelque chose dans le passé, vous l'apprendriez plus vite et mieux. Et je pense que cela arrive de toute façon avec beaucoup d'apprentissages pratiques, en particulier des compétences sportives et techniques. Les gens apprennent par la pratique, apprennent en faisant. Je pense que cela pourrait faire une grande différence dans l'enseignement des langues en Grande-Bretagne, par exemple, où les gens sont notoirement mauvais en langues étrangères. Je veux dire, la dernière façon dont un enfant français ordinaire apprendrait le français serait de parcourir une liste de verbes irréguliers, de déclinaisons et de choses comme on me l'a appris dans un manuel. On pourrait penser à une méthode beaucoup plus efficace pour le faire. Je vois. La résonance morphique pourrait avoir des implications techniques. Elle a des implications pour le traitement des pertes de mémoire et de la maladie d'Alzheimer, et je pense que les problèmes psychologiques liés à la mémoire. Si l'on pouvait développer des ordinateurs à résonance morphique, et je pense qu'il faudrait qu'ils soient analogiques et non numériques, alors on aurait des banques de mémoire mondiales et je pense qu'on aurait des systèmes d'intelligence artificielle qui seraient vraiment intelligents plutôt que de simuler l'intelligence. C'est donc un domaine. L'autre travail que je fais sur l'esprit étendu, le sentiment d'être regardé, la télépathie et le sentiment présent, diverses formes d'intuition. Si l'on pouvait entraîner des compétences intuitives, les gens seraient plus aptes à anticiper ce qui va se passer, les dangers possibles dans l'environnement. Ils deviennent plus intuitifs dans leur réaction à ce qui se passe autour d'eux. Et il y a beaucoup de possibilités d'entraînement à l'intuition. Et donc je pense que oui, il y a beaucoup d'applications. Aucune d'entre elles n'est une grande application technologique qui attirerait des milliards de dollars de financement de la part des industries de l'ingénierie. Elles sont toutes plutôt du type soft power, du moins jusqu'à présent. Pensez-vous qu'il s'agit d'essayer de convaincre ceux qui sont sceptiques quant à votre point de vue qu'il existe des éléments de preuve clés qu'ils évitent, ou qui, selon vous, les convaincraient? Ou pensez-vous que c'est juste que l'interprétation des résultats que vous voudriez donner est différente de celle qu'ils donneraient? Non, je ne crois pas que ce soit juste une interprétation. Je pense que je veux dire, prenons par exemple le sentiment d'être regardé de dos et de se retourner pour découvrir que quelqu'un vous regarde. 95% des gens ont vécu cette expérience. J'ai fait beaucoup d'expériences qui montrent que c'est réel. Je pense qu'elles montrent que c'est réel. Les sceptiques ont alors dit, « Oh, vous avez mal fait la randomisation. » Et donc j'ai fait la randomisation comme ils pensaient qu'elle devait être faite. L'effet est le même. Puis certains sceptiques ont dit, « Oh, eh bien. » Avez-vous d'autres personnes pour la reproduire? Oui, oh, oui, cela a été largement reproduit. En fait, le musée des sciences d'Amsterdam a eu le sentiment pendant 25 ans d'être considéré comme une expérience d'exposition à laquelle des milliers de personnes ont participé avec des résultats très positifs. C'est vrai. Et puis certains d'entre eux ont dit, « Eh bien, c'est peut-être parce qu'il y a des fuites de son et des changements subtils dans la respiration. » Eh bien, cela a été fait à travers des fenêtres, à travers des barrières insonorisées et fonctionne toujours ou même à travers la vidéosurveillance, où il n'y a aucune possibilité de fuite sensorielle. Et la réponse de la plupart de mes détracteurs à cela, les matérialistes convaincus, est de rejeter complètement les preuves et de dire simplement que c'est impossible, donc que les preuves doivent être erronées. Oui. C'est par exemple Steven Pinker qui dit que ces choses sont impossibles dans son livre La rationalité. Il a en fait soutenu qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les preuves dans des domaines comme celui-ci, car vous savez qu'elles sont impossibles, donc c'est une perte de temps. Je l'ai donc mis au défi d'examiner les preuves, mais il a ensuite déclaré qu'il ne voulait pas en débattre avec moi, car il n'avait pas la capacité de lire l'épreuve. Il savait que c'était faux, mais il ne les avait pas lues. Il a donc demandé pourquoi il ne débattait pas avec quelqu'un qui en savait plus sur le sujet, à savoir Michael Schumer. Ce débat a eu lieu l'année dernière à Hong. Michael Sherman a fait exactement ce que fait Pinker, c'est-à-dire qu'il a éludé l'épreuve à chaque étape. Vous savez, il a fait des remarques générales sur la faillibilité du jugement humain et ce genre de choses, mais il n'était absolument pas disposé à examiner l'épreuve. Et bien sûr, de mon point de vue philosophique, tout cela est très compréhensible dans le sens où nous sommes attachés à nos propres récits du monde. Et l'idée que l'on peut utiliser un peu de preuves expérimentales pour convaincre quelqu'un n'est pas le cas. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la science, selon moi. C'est parce que si vous avez une théorie qui fonctionne très bien dans toutes sortes de domaines et que vous avez construit votre carrière en la suivant, etc., vous devez défendre cette théorie et vous n'allez pas envisager quelque chose qui la remette vraiment en question. Mais d'un autre côté, le même genre de question s'applique à nous tous. Vous savez, quel que soit le cadre que vous avez, nous risquons toujours, n'est-ce pas, d'imaginer que, vous savez, nous l'avons percé et que nous sommes attachés à des éléments essentiels de notre vision générale que nous ne sommes pas vraiment prêts à abandonner. Pensez-vous que cela soit vrai pour vous? Y a-t-il des éléments de votre cadre philosophique global, pour ainsi dire, sur la façon dont vous comprenez le monde, vous pensez, eh bien, non, je ne suis tout simplement pas prêt à abandonner cette partie-là? Eh bien, oui, je suppose qu'il y en a. Mais ce ne sont pas des choses qui ont réellement à voir avec des preuves empiriques. Je veux dire, je ne pense pas nier les preuves empiriques. Parce que j'ai un grand respect pour les preuves empiriques et après tout, la science est censée dépendre des preuves empiriques. Elle est censée pouvoir trancher les problèmes. Je veux dire, en réalité, c'est exactement ce que vous décrivez. C'est principalement une question de préjugés et d'engagement envers des croyances préexistantes. Je veux dire, dans mon cas, ces croyances incluent l'idée que les formes de conscience dans l'univers sont plus grandes que la nôtre, dont nous faisons directement l'expérience à travers des expériences mystiques, et j'aurai donc beaucoup de mal à y renoncer parce que j'ai réellement vécu ces expériences. Et si la science est empirique, cela signifie qu'elle dépend de l'expérience. Et donc, mes preuves pour cela sont ma propre expérience. Je ne m'attends pas à ce qu'elle convainque les autres. Elle me convainc. Et l'alternative à cela n'est pas l'expérience ou les preuves, mais une théorie. La théorie selon laquelle l'esprit n'est rien d'autre que l'activité du cerveau. Tout se passe dans la tête et il n'y a pas de conscience à l'extérieur. C'est une hypothèse. Je suis donc en désaccord avec cette hypothèse et les personnes qui la partagent ne sont pas d'accord avec moi sur la base de cette hypothèse. Mais je ne pense pas que ce soit ce à quoi je m'engage. Il s'agit en grande partie d'une théorie particulière, mais parce que pour moi, elle est tellement basée sur mon expérience. Oui. Bien que vous ayez accepté qu'il y ait certains éléments de votre cadre que vous ne seriez pas prêt à abandonner. Bien, je serais prêt à abandonner. Je veux dire, l'idée de cette conscience plus grande que nous-mêmes, je ne serais pas prêt à l'abandonner parce que je pense que c'est vrai. Si quelqu'un trouvait une meilleure explication de la mémoire et de l'hérédité, j'abandonnerais peut-être l'idée de résonance morphique. Mais je n'ai pas encore vu de meilleure théorie. Oui, point. Et vous savez, je ne pense pas que la résonance morphique soit le modèle ultime. Je pense que c'est un pas vers un modèle de la réalité meilleur et plus complet. Et donc j'abandonnerais peut-être si quelqu'un proposait quelque chose qui rende mieux compte des faits. Oui. Mais pas si quelqu'un disait que nous croyons simplement que c'est impossible et que cela va à l'encontre de la physique de niveau A ou quelque chose comme ça. Oui. Oui, je vois. Mais vous avez été tenté. C'était peut-être juste la façon dont vous l'avez formulé. Vous avez dit que la notion d'une conscience plus grande, je pense, est vraie. Oui, donc c'est. Bien, je pense que c'est vrai en tant qu'expérience que j'ai eue moi-même. Vous pourriez interpréter l'expérience que moi et d'autres avons eue d'une plus grande constante en disant que ce n'est rien d'autre qu'une illusion produite dans votre cerveau. Ce serait une autre interprétation. Mais je ne crois pas à cette interprétation. Je pense que c'est une expérience directe. D'accord. Une dernière question. Vous avez eu beaucoup de succès en termes de popularité auprès du grand public. Pourquoi pensez-vous que cela a été le cas? Et vous est-il déjà arrivé, lorsque vous avez rédigé vos comptes rendus, de penser qu'il serait judicieux de prendre en compte les idées reçues actuelles au sein de la communauté scientifique afin de rendre vos points de vue plus acceptables? Et c'est pareil de l'autre côté. Avez-vous déjà été tenté de rédiger un livre qui, selon vous, pourrait plaire au public, parce que vous pensez qu'il l'aimera? Il pensera qu'il aimera l'histoire dans son ensemble. Je ne pense pas avoir été tenté de le faire simplement parce que je pense que les gens l'aiment. Je veux dire, chaque fois que vous discutez de livres avec des éditeurs, leur principale préoccupation est de savoir si le livre se vendra. Exactement. Et il ne se vendra pas si personne ne l'aime et si personne n'est intéressé. Il y a donc manifestement un élément de cela chez chaque auteur, pas seulement chez moi. Bien sûr. Mais pour ce qui est de présenter les choses d'une manière acceptable dans le monde scientifique. J'ai passé l'année dernière, par exemple, à publier environ 7 ou 8 articles dans des revues à comité de lecture. C'est ce que je fais principalement en ce moment, rédiger des recherches dans des revues à comité de lecture, en franchissant tous les obstacles que l'on rencontre dans les revues scientifiques. Les formuler d'une manière acceptable pour les pairs. Avoir toutes les références, les preuves, les arguments, faire tout ce qui est nécessaire pour la science et certains de mes articles de ces dernières années, vous savez, astérisque Proceedings astérisque de la Royal Society B, astérisque E, astérisque Journal of Experimental Bio, astérisque Journal of Consciousness Studies, vous savez, ce sont des revues assez grand public. Donc je joue le jeu selon les règles. Et je suis totalement favorable à la publication de manière normale. Ce que je trouve, c'est que même si je joue le jeu scientifique selon les règles, je trouve que beaucoup de mes adversaires ne le font pas. Et dans mon livre, The Science de l'Illusion, par exemple, où j'examine les 10 dogmes de la science, les 10 principaux dogmes de la science, je les transforme en questions. La matière est inconsciente, dites-vous? Devient, la matière l'est-elle? Je la traite alors comme une hypothèse scientifique. Vous pouvez réellement examiner les preuves et les arguments des deux côtés et voir ce qui se passe. Alors que l'affirmation selon laquelle la matière est inconsciente, ce qui n'est pas le dogme habituel, n'est même pas énoncée explicitement. Généralement, elle est simplement considérée comme acquise, ce qui ne laisse aucune place au débat ou à la discussion ouverte. Donc, ce que j'ai fait dans ce livre, c'est essayer de prendre les dogmes centraux de la science conventionnelle, d'en faire des sujets de débat et de discussion réels, et cela a fonctionné. Je veux dire que certains scientifiques que je connais discutent vraiment de ces questions. Les personnes qui sont complètement attachées au matérialisme mécaniste en tant que croyance religieuse ou au scientisme ne sont pas intéressées à en discuter. Elles considèrent simplement ce livre comme une gêne qu'il faut ignorer ou supprimer si nécessaire. Quand j'ai donné une conférence à ce sujet, la conférence TEDx sur ce livre. Puis, comme vous le savez probablement, plusieurs personnes, des gens de type Dorenzien en Amérique, l'ont fait annuler ou ont essayé de le faire annuler ou censurer, non pas en se disputant avec moi sur ce que j'avais dit, mais en attaquant l'organisation qu'il avait diffusée, TED, en disant qu'ils se discréditaient et que cela nuirait à leur crédibilité. Et c'est la technique habituelle. Ne pas attaquer les idées, attaquer la plateforme. Je suis sûr que vous en avez souvent dans votre domaine de travail. En effet. Oui. En effet. Alors juste une dernière question, Robert. Alors qu'aimeriez-vous accomplir maintenant? Quel est votre prochain objectif? Eh bien, j'ai une nouvelle série d'expériences sur la résonance morphique, qui est mon idée scientifique la plus centrale, et j'espère qu'il pourra y avoir de bonnes preuves dans un sens ou dans l'autre sur la résonance morphique à partir de bons tests. Jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de preuves. Non pas parce que des gens ont essayé de le tester et ont échoué, mais parce que c'était tellement controversé que presque personne avec un laboratoire n'a voulu le faire. Je suis donc optimiste quant à la recherche sur la résonance morphique. Mon autre domaine de recherche très important est l'esprit étendu, l'esprit au-delà du cerveau. Je lance en ce moment une application pour que les gens puissent participer à des expériences sur la sensation d'être regardé et s'entraîner à s'améliorer. Et j'espère que cela conduira à une large participation à la recherche et surtout si les gens peuvent s'améliorer, de meilleures expériences parce qu'à l'heure actuelle, la plupart des gens ne sont pas très bons dans ce domaine. C'est au-dessus du hasard, mais pas beaucoup plus. Et si les gens pouvaient s'entraîner, cela ferait passer tout ce domaine de recherche à un autre niveau. Eh bien, si vous pouviez le démontrer, ce serait impressionnant, c'est sûr. Eh bien, en fait, cela a déjà été démontré dans de nombreux articles de revues à comité de lecture, mais pour en arriver au niveau où l'on pourrait faire des démonstrations, organiser des compétitions, vous savez, pour savoir qui est la personne la plus sensible possible avec les finales à la télévision. Et c'est pareil avec la télépathie téléphonique, j'ai développé des applications pour ça. Et en ce moment, je veux développer des applications d'entraînement à l'intuition pour que les gens puissent s'améliorer et ensuite, si nécessaire, organiser des compétitions. Donc, si vous finissiez par organiser des Jeux olympiques de télépathie par exemple et si les gens pouvaient gagner des médailles d'or pour être la personne la plus télépathique de tous les Jeux olympiques, cela deviendrait un fait social au lieu d'être quelque chose de marginalisé par les propagandistes du matérialisme. La plupart des gens ordinaires le considèrent comme un fait de toute façon. Ce n'est pas comme si, en parlant à la plupart des gens normaux, ces choses étaient contestées. Les gens disent « ça m'arrive tout le temps ». La plupart des gens n'ont pas de problème avec ce phénomène, le sentiment d'être dévisagé. La plupart des gens disent « oh, ça m'arrive ». Et ou des chiens qui savent quand leur maître rentre à la maison. Avez-vous envisagé d'organiser quelque chose comme des Jeux olympiques de télépathie ? Eh bien, non, mais nous n'avons pas eu d'application suffisamment sophistiquée, mais avec l'application Staring, c'est la première qui soit arrivée. Je veux dire que je ne suis pas personnellement en mesure d'organiser des compétitions à grande échelle. Il faudrait que je travaille avec une organisation qui soit meilleure que moi en relations publiques et en organisation. Mais la première étape est de savoir si les gens peuvent vraiment s'améliorer. Et je pense qu'ils le peuvent, mais je ne le sais pas encore parce que l'application vient juste de sortir. Je n'ai pas encore eu de lancement officiel, mais je l'ai mise dans ma newsletter aujourd'hui pour les personnes qui sont sur ma liste de diffusion et certaines l'essaieront bientôt, je l'espère. Point. Et puis une fois que ce sera là, et si ça marche, comme je l'espère, alors les compétitions deviendront possibles et ce ne sera plus qu'une question d'organisation. Très bien. Eh bien, c'était un plaisir de discuter avec vous, Robert. Merci d'être à nouveau avec nous.